Bonjour tout le monde. Nous allons commencer cette petite heure de rencontre intime avec un des plus grands créateurs de bande dessinée que la France ait connu, il faut quand même bien l'avouer. On pourrait rentrer dans les superlatifs, mais on peut juste rappeler que c'est, comme on vient de le préciser, 45 ans de création avec des séries qui ont marqué tout le monde et qui marqueront encore tout le monde. Les inoubliables compagnons du crépuscule, les passagers du vent, la belle Sian, je n'en parlerai même pas, enfin pas tout de suite parce qu'il y a des enfants dans la salle. Donc merci François Bourgeon d'être parmi nous. Je sais merci. Que tu es quelqu'un de très rare, donc doublement merci de t'être déplacé de l'autre bout de la France pour venir nous voir.
Oui, on n'est pas aux antipodes, mais en tout cas on est à 1000 km. Quoi.
Voilà. Pas loin. Donc, pour la petite précision, donc il y a une exposition de tes travaux à la BMI actuellement, qui restera, je crois, jusqu'à fin juin. Donc, je vous invite à aller la voir.
Plus tard, parce que, je crois, même début juillet.
Oui, début juillet, enfin, alors peut-être même prolongation. Oui, oui. Mais donc, je vous invite vraiment à aller la voir parce que c'est très rare de voir les planches elles-mêmes. Là, on a la chance d'avoir les crayonnés, d'avoir même pour certains, pour ceux qui seront un petit peu plus proches du cadre, ils verront qu'il y a aussi même des bleus avec les rhodoïdes ancrés, comme on ne fait plus. Donc là, on est presque, c'est une partie de l'histoire de la bande dessinée. Et puis il y a aussi, chose exceptionnelle, les maquettes que fait François Bourgeon pour ses bandes dessinées.
Oui, on peut même dire sans doute pour la dernière fois, parce que ces maquettes vieillissent, elles se fragilisent, et je crois qu'elles ne se déplaceront plus beaucoup.
Voilà,
donc dans les prochaines expositions, il y a plus de chances d'avoir des photos que les maquettes.
Donc les maquettes, effectivement, sont superbes. On en parlera un petit peu, parce que François y accorde énormément d'importance, autant sur le temps passé que sur l'objet réalisé lui-même. Et puis après, il va nous parler de l'utilité de ces maquettes dans la création de ces bandes dessinées. Mais surtout, leur petite précision, alors peut-être une précision qui va nous valoir la moitié de la salle vide dans la minute qui suit, mais François Bourgeon ne fait pas de dédicace, en fait, donc ni signature, ni dédicace, donc vous avez juste la chance de le rencontrer, c'est un plaisir éphémère, mais profitez-en, voilà. Oh, c'est bon, ils se sont pas levés, c'est cool.
Merci.
Donc merci d'être à Épinal, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton impression d'Épinal?
Oh ben, mon impression est bien sûr bonne. Je connaissais très peu Épinal. J'avais eu l'occasion d'y passer, mais rarement de m'y arrêter. Effectivement, c'est très loin de chez moi. Et l'accueil est très agréable. Et puis, avoir eu l'occasion de voir l'imagerie avec visiter toute la création, enfin, ce qu'il y a de technique autour des images d'Épinal, ce qui s'est fait, ce qui se fait, les réserves, les pierres, etc. C'est très intéressant pour quelqu'un qui dessine, évidemment.
Alors, on n'a pas l'image ici, mais il y a eu une image réalisée exprès pour l'exposition et pour la venue de François à Épinal, une image créée par l'imagerie d'Épinal, qui est en vente, je crois, sur le stand de l'imagerie dans le salon. Est-ce que tu peux nous parler de la création de cette image, en fait? Comment elle a été...
Alors, cette image, elle est partie donc de costumes qui avaient été faits pour la clé des confins, donc le volume explicatif, si on peut dire, et additionnel au cycle de Sian. Et le dessin, donc on a repris les dessins les contours noirs des personnages et on l'a traité, là, c'est pas moi, c'est l'imagerie, l'a traité à la façon des images anciennes, c'est-à-dire avec 42 passages pour le noir, ensuite le pochoir pour les couleurs, etc. Et évidemment, cette image a un intérêt, c'est qu'elle, par rapport au cycle de Sian avec Claude Lacroix, je précise tout de suite par rapport au cycle de Sian que dans ma collaboration avec Claude Lacroix, je reste le scénariste et le dessinateur, et Claude Lacroix m'a aidé à construire les différents mondes que l'on traverse. Et donc on avait une petite querelle, puisqu'on parle de la planète bleue dans l'histoire de cette des descendants, enfin de ces humains qui sont sur Hol, ils ont dans leur mythologie une planète qu'on appelle la planète bleue et dont je pensais que c'était probablement la nôtre, à laquelle il était arrivé pas mal de mes aventures, ce qui n'est pas impossible qu'il arrive d'ailleurs. Et Claude Lacroix n'était pas d'accord. Il me disait non, c'est sans doute une autre planète qui ressemble à la nôtre, mais peut-être même dans une autre galaxie, peut-être même dans un autre univers parallèle, etc., etc. Et puis là, on a quand même la preuve que les éoliens, enfin, dans le futur de Hall, à partir du moment où les gens ont pu se déplacer réellement, de faire de la téléportation, quelqu'un est venu jusqu'à Épinal, peut-être au 19e siècle, et a laissé des traces à travers cette estampe.
Cet artefact. Alors, tu parles de Claude Lacroix. Est-ce que tu peux nous, juste pour parler quelques mots sur cette collaboration et comment elle a commencé, sur quel type d'aide a pu être essentiel le travail de Claude Lacroix? Et c'était, si je ne me trompe pas, donc uniquement sur l'univers de Sian, en fait.
Voilà, le travail avec Claude Lacroix était uniquement sur Sian. Ben, c'est très simple. Ça, c'est, je connaissais Claude Lacroix depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a commencé à peu près en même temps que moi à faire de la bande dessinée. Et c'est un ami. Et je lui parlais de mon projet de faire une histoire de science-fiction qui allait me changer un peu des Passagers du Vent ou des Compagnons du Crépuscule. Et je lui disais, voilà, science-fiction c'est bien, créer des mondes c'est intéressant, créer des univers, des sociétés c'est amusant, c'est lourd, c'est vraiment du boulot. Alors, il y a des choses qui vont m'intéresser, puis il y a des choses qui vont moins m'intéresser, je suis moins intéressé par les technologies dans l'espace, tout ce qui est véhicule, tout ce qui est très technique. En architecture, il y a des choses que j'avais envie de faire, mais d'autres, je n'avais pas envie de perdre trop de temps dessus. Donc Claude m'a dit, si tu veux, tu restes le scénariste, tu restes le dessinateur, mais moi je peux t'aider, on peut discuter ensemble et puis se partager la création des mondes, et on reste en rapport tout le temps. Quand on va vers une nouvelle planète, je prends l'exemple de la planète Hilo, une colonie de Hall, qui se trouve dans la zone des confins. Cette planète a un anneau, comme Saturne, sauf que c'est une planète habitable, ce que Saturne n'est pas. Mais cet anneau, il va avoir des répercussions sur, évidemment, le climat de cette planète, puisque son ombre se balade, va changer le climat en fonction si son ombre est en haut, en bas, etc., en fonction de l'inclinaison de la planète ou de sa non-inclinaison, etc. Il va créer ses propres, sa propre météorologie, etc. Donc Claude, ça l'amuse beaucoup de calculer ce genre de choses. De la même façon, quand on est arrivé sur la planète Aldal, Aldal, c'est une planète qui tourne très, 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 très lentement. Et enfin, qui est énorme aussi. Elle tourne assez vite, mais elle est énorme. Mais elle est tellement énorme que la nuit dure à peu près une année et le jour pareillement. Elle est invivable la nuit parce qu'elle est évidemment beaucoup trop froide et tout y meurt gelé. Donc il a fallu qu'on faire des calculs sur la révolution de cette planète autour de son soleil et sa rotation cette population qui est toujours en déplacement, parce que si elles arrêtent de se déplacer, elle est rattrapée par la nuit, et être rattrapée par la nuit, ça veut dire mourir.
Je me souviens que tu avais dit à un moment donné que la source et la sonde avaient été une récréation dans ton travail, et c'est tu es en train de nous expliquer que c'est grâce au travail de Claude Lacroix que ça a pu rester une récréation, parce que sinon c'était...
Non, c'est une récréation comme tout le reste. Je veux dire, on passe toujours un temps, beaucoup de temps à faire ça. C'est un amusement. Faut dire, la bande dessinée, c'est un travail. C'est un travail qui prend... en ce qui me concerne, je ne peux pas parler pour tous les auteurs, mais qui me prend quand même la majorité de mon temps, mais c'est aussi un plaisir, et voilà quoi, c'est la part de travail, la part de plaisir, c'est partagé, c'est pareil pour tous les gens qui font un métier qu'ils aiment bien, qui laissent, voilà.
Et alors l'arrivée de la science-fiction, par exemple, dans ton travail, parce que même en tant que lecteur, en fait, c'était un petit peu surprenant de te voir passer des Passagers du Vent, les Compagnons du Crépuscule et autres dans cet univers historique, quel que soit le domaine, avec beaucoup de recherches. Et ce qui était amusant aussi en tant que lecteur, c'était aussi faire la part du réel dans tout ça. La science-fiction, pourquoi en fait à un moment donné? Alors on ne va pas épiloguer sur la science-fiction, mais ça reste quelque chose finalement d'assez exceptionnel dans ton travail.
Oui, c'est exceptionnel. C'était simplement le but était de changer, et en fait ça ne change pas. Enfin, ça change beaucoup, évidemment, puisque les gens n'habitent pas dans les mêmes conditions, n'ont pas les mêmes règles, n'ont pas les mêmes lois, n'ont pas les mêmes costumes, n'ont pas la même architecture, n'ont pas les mêmes sociétés. Donc tout change, mais le regard qu'on a sur ces planètes inconnues pour nous, et le regard de l'historien qui cherche à remonter dans le passé et qui est un regard généralement à l'aune de l'époque que vit la personne qui raconte. Un historien va s'intéresser au Moyen-Âge, ou le Moyen-Âge de Froissart, celui de Michelet n'est pas le même, ou celui de Duby ou de Favier. Voilà, c'est à chaque fois chacun a sa vision, et souvent va étudier en fonction des problèmes que lui pose la société dans laquelle il vit, sa société contemporainement. Et pour la science-fiction, ben je me suis rendu compte assez rapidement que c'était la même chose. Exactement. Je pense que, on va prendre un petit exemple, quand Sian arrive sur la planète Marcade, on était à cette époque dans une phase très difficile de notre métier, puisqu'on était dans des luttes juridiques, etc., très, très dures et qui ont duré très longtemps. Et on était aussi dans le contexte économique que connaît notre planète actuellement, qui commençait à pointer son nez un peu sérieusement. Enfin, sérieusement, c'est peut-être pas le mot. Et il est certain que tout ça a eu une influence sur la narration de cette planète où les gens, dès qu'ils ouvrent la bouche, commencent à ouvrir un compteur comme un taxi et monnaient le moindre échange, le moindre dialogue, le moindre service, la moindre chose. On n'aurait peut-être pas eu cette idée si on n'avait pas été en pleine bagarre à ce moment-là. Ça nous a aussi permis d'évacuer pas mal de choses.
Mais voilà, disons, alors juste la petite aparté, si on t'écoute, ça veut dire que les prochains, tes prochains travaux risquent d'être encore, je dirais, très empreints de politique, par exemple.
De politique, oui, au sens large du terme, oui, parce que je suis comme tout le monde, je suis curieux du monde dans lequel je vis, je suis curieux, voire inquiet de son évolution, et on a envie d'en parler avec ses contemporains, et pour un auteur, en parler avec ses contemporains, c'est avec, en gros, c'est avec ses lecteurs, c'est-à-dire d'échanger, ne serait-ce que pour pas se trouver un petit peu moins seul, quoi.
Alors, c'est vrai que quand on lit, enfin, quelles que soient les séries sur lesquelles tu travailles, en fait, on s'aperçoit que c'est quand même en premier l'aspect humain qui va importer, les rapports entre les personnes, les rapports de hiérarchie, le pouvoir, bon, les caractères, les différents. Alors, deux petites questions sur tes personnages, en fait. Est-ce que tu t'inspires de modèles vivants? Est-ce que tes personnages, par exemple, bon, les héroïnes, pour ne parler que d'elles, sont quand même très réels, on dira, autant avec leurs défauts et nos envies de leur mettre quelquefois quelques claques que leur héroïsme. Mais donc, est-ce que ce sont des personnages réels, ou est-ce que tu fais un patchwork de personnes que tu connais?
C'est un patchwork. La grande majorité du temps, les personnages sont des patchworks. Physiquement, pareillement, très souvent, les personnages sont des patchworks, sauf très occasionnellement, il y a quelques personnes qui apparaissent telles qu'elles sont dans la réalité, mais là, ce sont plus des clins d'œil, et généralement, j'essaie de faire en sorte qu'elles ne soient pas trop reconnaissables, mais ce sont des petits défoulements amusants. Mais les autres personnages, ils sont inspirés de tous les gens que je rencontre, que je connais ou que je connais moins, des livres que je lis, des films que je vois.
Tu n'avais pas parlé d'un éditeur que tu avais mis en scène dans une mort atroce dans un de tes albums? Non, il n'y avait pas quelque chose comme ça? Non,
hein, je ne me rappelle plus. Non. Ça peut arriver, mais bon. Ça peut arriver. Ne parlons pas des morts.
Alors, sur l'historique, par exemple, des passagers du vent, la création des bateaux, l'aspect maritime, qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans ces premiers récits?
En tout premier lieu, bien sûr, la marine à voile. Pourquoi la marine à voile? Bon, parce que j'avais fait un petit peu de croisière, mais je ne peux pas me présenter comme un vrai marin. J'ai jamais été plus loin que prendre le bateau à l'Île-Dieu pour aller jusqu'à Ouessant. En revanche, je suis tombé un jour. Enfin, j'avais commencé déjà à faire une maquette de bateau quand j'étais au chômage à une certaine période de ma vie et pour passer le temps. Et j'avais fait une maquette de frégate. Et puis j'ai été au musée de la marine pour compléter mes plans qui étaient imparfaits. Et puis un jour, rue Jacob à Paris, je suis tombé sur la librairie maritime qui est toujours, je crois, rue Jacob. Et j'ai trouvé le premier ouvrage, les deux premiers ouvrages de Jean Boudriot sur le vaisseau de 74 canons. Donc ces ouvrages sont, il y en a quatre au total qui sont parus. Dès que j'ai pu me les acheter, parce que c'est quand même des ouvrages assez lourds et assez coûteux, je les ai achetés et je me suis rendu compte que j'avais là un univers, presque une. De quoi faire un huis clos, de quoi faire une pièce de théâtre, quoi. C'est-à-dire que les bateaux y étaient décrits à la fois dans leur construction, dans leurs manœuvres, mais aussi dans tous leurs aménagements intérieurs, les chambres d'officiers, etc., les cuisines et tout. Donc ça m'a permis ça m'a donné envie d'emmener des personnages dans cet univers et de permettre au lecteur de visiter en même temps que moi. Ces bateaux qui n'existent plus, ou qu'il y a de très, il n'y avait pas l'Hermione à l'époque, mais c'est plus gros que l'Hermione, le 74 canons. Hein, c'est quand même un bateau plus gros. Le plus gros dans le genre qui existe encore, c'est le Victory, hein, qui navigue plus par contre. Voilà, donc au départ, c'est parti de ça. Puis alors ensuite, ça s'est bien sûr compliqué, puisque Isa a rejoint sur ce bateau, a réussi à s'introduire sur ce bateau, habillé en homme, a été avec ce vaisseau, le Foudroyant, presque jusqu'au Brésil, rejoindre la flotte de l'amiral Destin qui luttait avec les Américains contre les Anglais à ce moment-là. Et elle est faite prisonnière, elle revient en Angleterre, le matelot dont elle a fait connaissance, Hoël, se retrouve sur un ponton, elle le fait évader, elle rentre en France, elle est malvenue en France et en danger, si on peut dire, donc elle est obligée de repartir. Et elle part de Nantes. Et Nantes, j'ai cherché bon les navires de commerce et tout, puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de navires négriers. Et là, ça fait rebondir et réellement partir, si on peut dire, enfin d'une manière différente, en tout cas les passagers du vent, puisqu'à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à la traite négrière, j'ai découvert ce que je ne savais pas, non pas qu'elle existait, je le savais, mais la manière dont elle existait. Et d'archive en archive, j'avais été aux archives de la rue Oudinot, de l'ancien ministère des colonies, bien sûr à la Bibliothèque nationale. Et puis, quand j'ai eu connaissance des comptoirs au Dahomey, l'actuel Bénin, et du comptoir de Judas en particulier, j'ai été au Musée de l'Homme, où il y avait des anthropologues ou des historiens qui avaient travaillé. Bon, les ouvrages de l'EIRIC, tous ces gens-là qui ont travaillé sur ces régions. Au 19e siècle et un peu avant, mais au 18e, il y a moins de récits, il y a le récit de l'abbé Bulle et tout. Donc voilà, ça m'a emmené à. Et puis ça a continué, ça a continué, ça a continué, quoi. Voilà.
Est-ce que justement le sujet de la traite négrière, parce qu'en bande dessinée c'est quand même assez rarement traité, est-ce que cela t'a attiré quelques aventures houleuses de temps en temps?
Non. Curieusement, non, ça ne m'a jamais créé de vrais problèmes. Ça m'a plutôt. J'ai plutôt eu de bonnes surprises. Il y en a une qui est assez amusante. On avait fait un débat à l'abbaye de Lépau, près du Mans, et il y a une dame à la fin du débat, une dame africaine qui était venue me voir et qui m'a dit: Monsieur Bourgeon, je viens vous voir parce que je m'appelle, son prénom, Olivier de Montaguer, son patronyme. Et Olivier de Montaguer, c'était le gouverneur du fort de Juda quand Isa y arrive. Et à ce moment-là, elle me dit, voilà, quand Olivier de Montaguer a regagné la France, il avait 3 enfants de ce qu'il dit lui-même, enfin je prends les désignations d'époque, la mulâtresse Sophie, qu'il a bien entendu laissée sur place, il ne l'a pas ramenée en France, et il s'est quand même préoccupé de ses enfants, il avait peur qu'ils soient revendus comme esclaves, donc il les a confiés au roi Kpengla, et qu'il lui-même les a confiés à un de ses ministres. Un de ses enfants n'a pas eu de descendance, les 2 autres ont eu de la descendance, et cette femme était donc une descendante d'Olivier de Montaguer. Et descendance métisse, évidemment. Et ça m'intéressait. Bon, d'abord, ça m'intéressait, c'était émouvant, c'était amusant, intéressant. Et cette dame me dit, mais je m'intéresse beaucoup à mon ancêtre, et j'essaie de faire un petit blog pour essayer de trouver des documents sur lui et d'essayer un petit peu de décortiquer tout ça. Et alors je me dis, mais moi quand j'avais cherché un portrait d'Olivier de Montaguer, j'en ai jamais trouvé. Donc peut-être que cette dame, elle, a la chance d'en avoir un. Et je lui dis, mais alors vous avez trouvé un portrait de votre ancêtre ? Elle me dit, ah oui, pour mon blog, bah, je l'ai pris tel qu'il est dans Les Passagers du Vent.
Voilà. Belle fermeture de boucle.
C'est une belle histoire.
Justement, tu parles justement de plusieurs générations. Il y a quand même un élément, moi je trouve, qui revient essentiellement dans toutes tes séries, c'est la transmission. La transmission, quelle que soit, enfin, d'une valeur ou d'une autre, en tous les cas, dans la continuité. On le voit bien avec la découverte très récente de la dernière page du cycle de La Source et la Sonde, parce que celle-ci est en la dernière planche couleur qui a été dévoilée, puisque l'album est sorti il y a à peine un an.
Donc les Obdus d'Aldalaran, oui.
Sans trop dévoiler cette dernière planche, il y a cette transmission. Est-ce que tu fais, par exemple, des rencontres scolaires ? Est-ce que tu vas vers ton public de cette manière-là, par exemple, aujourd'hui ?
Ça m'est arrivé, je le faisais beaucoup à une certaine époque, enfin souvent, à l'époque il y avait beaucoup moins d'auteurs qui le faisaient. Ça m'a permis de rencontrer Jean-Claude Mézières, on s'est souvent rencontrés dans des écoles comme ça, il arrivait avec ses planches sous le bras, ses mises en couleur et tout, et moi de même. Donc je l'ai fait, je le fais de temps en temps, mais vraiment maintenant je le fais beaucoup plus rarement. Parce que je mets de plus en plus de temps à travailler, à lire, à préparer mon travail, et je rajeunis pas, donc les journées n'étant pas extensibles, et je suis quand même obligé de me concentrer un petit peu sur ce que j'ai à faire, et puis prendre un peu le temps de voir mes enfants et mes petits-enfants, puisqu'on parle de transmission.
Alors, puisque tu parles de justement des séries, il y en a peu, mais c'est... On peut dire qu'elles sont très denses au niveau du travail lui-même, en fait, hein, parce que je sais que tu as souvent des remarques comme quoi les albums ne sortant que les 5, 6 ou X années, certains se demandent ce que tu fais entre les albums, mais quand on ramène ça au nombre de planches, on s'aperçoit que c'est quand même effectivement un sacerdoce. Comment naissent les projets, en fait ? Parce que consacrer 5, 6, 7 ans à un projet, enfin... un album, et là, quand on parle de la série complète, je préfère pas parler d'années. Comment est-ce que ces projets naissent et comment est-ce que tu fais pour suffisamment t'alimenter pour ne pas être désintéressé au bout de 1 ou 2 ans, en fait, par exemple ?
La documentation, c'est un moyen, ça n'est pas un but. Je pense, bon, on a une idée plus ou moins vague, plus ou moins précise, qui peut pendant un certain temps changer, prendre une voie ou une autre. Et puis, je crois une chose très importante dans tous ces métiers de narration, qu'ils soient de la bande dessinée, du cinéma ou n'importe quoi, c'est savoir prendre le hasard quand il se présente. C'est-à-dire que quand d'un seul coup on va tomber sur quelque chose qui vous paraît inattendu, magique, un peu extraordinaire, se dire tiens, là, je tiens peut-être une piste. Et ensuite, en approfondissant cette piste, on va découvrir et découvrir et découvrir des tas de manières de raconter cette histoire différemment de ce que soi-même on avait prévu, quoi. Et je travaille toujours comme ça, je lis énormément, et il y a toujours un moment, il y a des petits miracles qui se passent, parce que c'est inattendu, on se surprend, c'est-à-dire qu'on... Ce qu'on découvre nous surprend et nous donne envie d'aller plus loin et d'aller plus loin. C'est des rencontres, en fait. Le livre, le document, c'est de la lecture. C'est une rencontre avec des gens qui ont vécu, soit qui vivent à notre époque, quand ce sont des historiens, quand ce sont, soit des gens qui ont vécu quelques décennies, voire siècles auparavant, et qui nous ont retransmis certaines choses qu'il est intéressant de lire d'une manière décalée.
Et alors, pour parler, par exemple, de ton travail vraiment sur un album ou une série, avant le premier coup de crayon, combien de temps entre l'idée du thème et le premier coup de crayon, combien de temps de recherche, combien de, enfin, sur les trois expériences, disons, maintenant, par exemple, bon, peut-être que le cycle de Sian, c'est un peu à part, puisque la documentation venait plus de Claude Lacroix et...
Ben non, elle était partagée. C'est-à-dire, bon, si on prend le cycle de Sian, Claude Lacroix... Moi, j'avais prévu, par exemple, la ville d'Ol, ses bassins qui se déversaient les uns dans les autres avec la société répartie, etc., en fonction des bassins et tout. Claude a repris cette idée et avait fait un petit plan relief de la ville, qui ne correspondait pas exactement à ce que je pensais, mais qui m'a semblé intéressant. Ensuite, on a retravaillé là-dessus. Claude avait fait un dessin de la tour Alcimar, moi j'en ai fait une maquette. Pareillement pour le Stamo qu'on peut voir ici, la tour Alcimar aussi. Pour le Rafio, ça a été un peu différent, c'est-à-dire qu'on a ensemble prévu les plateformes qui allaient servir à ces bateaux à naviguer justement sur cette planète où on ne doit jamais se laisser rattraper par la nuit. Mais chaque Rafieux aménageait cette embarcation, cette espèce de camping-car, un petit peu avec les moyens du bord, qui étaient souvent des moyens végétaux, etc. Et là, c'est moi qui ai fait la maquette. Voilà, alors les costumes, on se les répartit, la faune, on se répartit. Moi, j'avais créé les cajoles comme animaux, Claude en a créé d'autres, il a créé le dogodon, etc. Chacun se répartit, puis de temps en temps, il faut convaincre l'autre. S'il est à moitié convaincu, faut soit le convaincre, soit retrouver une piste commune, etc.
Et sur, par exemple, les passagers du vent, les compagnons du crépuscule, ou ton prochain travail, combien de temps de documentation quand on est seul à chercher les éléments?
C'est très difficile à dire, ça, parce que ça n'arrête pas, quoi. Là, par exemple, depuis qu'est paru le dernier cycle de Sian, les Aubes douces d'Aldalaran, je travaille sur un sujet. Bon, j'ai déjà lu une quarantaine de bouquins, j'en ai consulté pas mal, je vais sur Internet trouver des compléments d'informations. Et puis j'ai déjà écrit le scénario, je sais que je vais revenir dessus, je sais qu'il y a des passages sur lesquels il faudra que je revienne beaucoup, il y en a d'autres qui sont à peu près bouclés, enfin tous les dialogues sont faits, mais ils vont être modifiés,
juste les dialogues, sans nous parler de l'histoire, mais ils parlent de quoi les dialogues?
Ben, si on parle des dialogues, on parle de l'histoire. Le piège est un peu gros, Gilles.
J'ai essayé.
Fallait tenter le coup.
sur ce projet, par exemple, justement, La Source et la Sonde, du coup, c'est un travail arrêté depuis quand, finalement, maintenant? Puisque l'album est sorti, mais toi, tu es passé à autre chose depuis
il est sorti en septembre, je l'avais terminé dans l'été, quoi. C'est 4-5 mois avant, quoi.
Et donc moins d'un an après, tu peux te relancer sur un projet d'envergure.
Mais je commençais déjà à penser à quelque chose.
Ok. Alors, il est toujours un personnage féminin. Enfin, après, promis, j'arrête de parler du projet.
Je ne vais pas à 70 ans bientôt. enfin dans quelques jours, et me mettre à tout remettre en question et à redémarrer une autre vie avec un autre style, etc. Je fais ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Ça ne veut pas dire qu'un jour je ne m'amuserai pas à faire autre chose, mais pour le moment, là, j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur et je vais... Mais ça va être soit un album unique, soit comme La Petite Fille Boit Caïman, un album coupé en deux, mais ça ne va pas être une série qui va commencer pour 10 albums, parce que j'ai beau être optimiste, 10 albums, il ne faut quand même pas charrier. Quoi.
Est-ce que dans tout ton travail, il y a des personnages que tu as eu envie de faire revenir, en fait ? Après avoir bouclé le cycle en disant tiens, ce personnage-là, j'ai envie de le remettre au premier plan ou de le...
Il y a des personnages. Bon, Sian, c'est bouclé, là, il n'y a pas de problème. La bombarde et du bignou, là. Les compagnons du crépuscule, c'est bouclé pour une autre raison, c'est-à-dire que le choix de faire une série qui se situe au Moyen-Âge, mais avec un langage coloré de Moyen-Âge, enfin, pas un vrai langage du Moyen-Âge, mais on ne peut pas faire ça pendant 10 albums, quoi, je pense. Ça deviendrait, on se répéterait, ça deviendrait ennuyeux et tout. Mais bon, dans Les Passagers du Vent, Isa, elle est morte. Il y a d'autres personnages et tout. Bon, voilà. Alors, je m'interdis jamais rien. Je laisse les choses venir. Parce que j'avais dit que je ne reprendrais jamais Les Passagers du Vent à la fin du cinquième. Et puis, j'ai fait la Petite Fille Boit Caïman très peu de temps après. Enfin, très peu de temps, si. Presque 20 ans après. Mais c'est peu de temps, 20 ans.
Est-ce que dans tes recherches ou ton travail sur certaines époques ou autres t'ont amené à pratiquer ou à t'initier toi-même à des coutumes, où on parlait du bignou par exemple, ou est-ce que je sais que tu fais du tir par exemple à l'armée ancienne, est-ce que ça c'est venu aussi par tes recherches, par ton travail ou par goût par exemple?
Non, c'est toujours amusant de faire du tir, mais je veux dire, c'est pas le côté viandard qui m'a attiré. Hein. C'était vraiment un peu plus la connaissance des armes à silex, des choses comme ça, pour pouvoir, puisque Isa chasse, puisque Isa va dans les bayous, puisque Zabo, pareillement, a à se servir de... Voilà, j'aimais bien, un petit peu comme l'environnement musical, quand je travaillais sur... J'écoutais pas de la musique cajun à longueur de journée, mais j'écoutais quand même des musiques, souvent de la musique haïtienne, de la musique de temps en temps, pour essayer de rester dans le bain, ou quand j'avais envie de me détendre et de lire un roman policier, quand je faisais La Petite Fille Boit Caïman, je lisais plutôt un James Lee Burke qui me ramenait dans la Louisiane, même si c'était contemporain, plutôt que d'aller lire quelque chose qui se passait en Norvège, quoi, voilà.
Il y a un sentiment énorme de liberté lié à tes histoires, lié à tes personnages. Il y a toujours quand même une lutte, une quête de soi liée à la liberté. Pour parler un tout petit peu de, je dirais, un historique éditorial, on dira. Aujourd'hui, la bande dessinée. Ta vision sur la bande dessinée aujourd'hui, là, pour parler, voilà, on quitte un petit peu le graphisme, on quitte un peu la création et le rêve, et on se réattache un petit peu à des préoccupations plus réalistes, à savoir le métier aujourd'hui. La bande dessinée, on en parlait hier avec ton éditeur. Comment est-ce que ton regard là-dessus aujourd'hui, en fait, au bout de 40 ans dans ce domaine, l'évolution, que ce soit... J'avais envie de te poser des questions sur l'évolution technique, puisque tu as changé de technique petit à petit, en passant d'un outil plus traditionnel comme la plume à un outil ultra moderne comme le feutre. Peut-être que la prochaine c'est la palette numérique, je ne sais pas, mais sur le métier lui-même, en fait, sur le métier lui-même, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui si un jeune vient te voir en te disant j'ai un album complet sous le bras, je rêve d'être dessinateur de bande dessinée?
Ce que je lui dirais d'abord, c'est continue, mais prépare-toi à autre chose. C'est-à-dire que je suis incapable de dire à quelqu'un tu pourras faire de la bande dessinée dans 10 ans ou dans 20 ans, je ne sais pas. J'aimerais bien savoir, et la plupart des éditeurs et des auteurs aimeraient le savoir, mais l'évolution du livre, du monde du livre, toute la chaîne du livre étant concernée, je ne sais pas. Ça va beaucoup dépendre des lecteurs, bien entendu, mais des choix politiques qui sont faits aussi. Je me méfie des... Bon, évidemment, on se dit que des gens qui travaillent pour beaucoup sur des écrans, qui toute la journée sont en train de jongler avec des tablettes, avec des téléphones, etc., ont peut-être intérêt, quand ils ont envie de se distraire, à trouver un autre support que de replonger sur les mêmes écrans, tout en ayant les autres branchés à côté, etc. Mais si les gens décident de vivre comme ça, je n'ai pas les moyens de les empêcher. Donc, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont attachés au livre. Il y en a encore beaucoup. Est-ce que ça durera? Ou est-ce que le... Voilà. Si, par exemple, le roman est complètement numérisé, petit à petit, les gens prennent l'habitude de lire sur des tablettes, et exclusivement sur des tablettes, il est certain qu'on ne fabriquera plus de livres. La bande dessinée sur tablette, moi, j'y crois pas. Sincèrement, aller lire sur un écran où vous avez l'habitude de voir des choses qui font du bruit, qui se déplacent, aller voir des images fixes et lire des bulles... Ça me semble pas très intéressant. Donc, je pense que la bande dessinée existera tant que le livre existera, mais sans le support livre, je pense qu'elle n'existera plus. Voilà. Alors, le support livre peut rester. Ce que j'aimerais personnellement, c'est qu'il reste à des, voilà, qu'il reste accessible à tout le monde, parce que moi je fais pas de la bande dessinée pour vendre des originaux, je fais de la bande dessinée pour qu'elle soit accessible à tout le monde. J'ai commencé à faire de la presse, c'est le but est quand même de toucher un maximum de lecteurs, non pas pour être connu, mais pour partager, pour échanger, pour dialoguer avec un maximum de gens.
Alors dans ton processus, un processus de création très lent, on est d'accord, très long, mais on a compris que c'était par l'importance des albums. Tu passes énormément de temps sur la documentation, c'est une grande récréation, si j'ai bien compris, hein, vous avez compris comme moi, en fait. François ne travaille pas, en fait, il s'amuse depuis 40 ans, tant mieux. Énormément de plaisir sur les maquettes, donc un petit mot sur les maquettes, et moi j'ai l'impression qu'en fait, dans ton processus de création, c'est le chemin qui compte, en fait, c'est pas finalement la fin du voyage. Quand tu parles de l'album, il est remis entre les mains du public, et j'ai l'impression que ça, c'est presque une anecdote, en fait, dans ton processus, puisque ce qui va t'intéresser, c'est pas l'album lui-même, mais la réaction du public, la discussion, comme tu viens de le dire avec émotion, et le chemin, en fait, le chemin parcouru. Ton plaisir là-dedans, finalement, il se détache assez rapidement de l'objet fini.
Oui, c'est... On prenait un photographe, voilà, de Pardon, un grand photographe. Il va vous filmer ou vous photographier un angle de rue avec une poubelle. Même une rue devant laquelle vous passez tous les jours. Et vous allez vous dire, mais ça, je ne l'ai jamais vu comme ça. Il a vu quelque chose que je n'ai pas vu et il me le montre. Et un auteur, c'est ça. Finalement, on raconte tous la même histoire, ou les mêmes histoires, ou le même genre d'histoire, ou bon, avec nos différences, avec nos particularités. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer aux gens qui s'intéressent à notre travail quelque chose d'un peu inattendu, qui les surprend, qui leur permet de trouver des chemins de traverse, de trouver des aiguillages, de se perdre éventuellement et retrouver, mais de voir les choses comme ils ne les voient pas habituellement, y compris des choses actuelles qui vont peut-être être traitées par le biais de la fiction, etc.
Oui, tu essaies de rester totalement perméable justement aux choses actuelles pour pouvoir soit les digérer, soit les réinterpréter et les utiliser par exemple dans tes projets ou ce qui va t'influencer, quoi, en fait.
Le présent ne me lâche jamais. Bon, ben voilà, on a tous des familles, on a des descendants, etc. Et on espérait leur laisser un monde pas trop pourri. Donc, on ne peut pas se désintéresser de ça. On ne peut pas. Et toutes ces questions qu'on se pose, ben évidemment, elles transparaissent dans ce qu'on écrit.
Oui, tu restes... Voilà, il y a cette actualité, il y a ce présent, il y a aussi tes combats encore éditoriaux, par exemple, hein, parce que je sais que tu aides beaucoup de jeunes auteurs, entre guillemets, tu participes à des réflexions autour de ça. Est-ce que tu as des retours, en fait, entre guillemets, de jeunes collègues, en fait, par rapport à... Est-ce que tu sens un changement? Est-ce que cette espèce de résistance continue? Ou est-ce que finalement tu as l'impression qu'il y a une acceptation du tout et un lâcher prise de la part des auteurs vis-à-vis des éditeurs essentiellement en premier? Parce que
faut savoir une chose, c'est bon, tu as employé le terme résistance. La résistance, ça n'a jamais été l'objet du plus grand nombre. Donc il faut savoir quand même que quand on décide de dire non, on est parfois un peu seul. Mais ça, c'est de tout temps et ça a toujours existé dans l'histoire. Maintenant, faut savoir une deuxième chose, c'est que quand on se bat, se battre au bon sens du terme, c'est-à-dire quand on essaie d'améliorer les choses ou de faire en sorte qu'elles n'empirent pas, en tout cas, c'est un combat qui n'est jamais gagné. Faudra toujours être vigilant, faudra toujours remettre les choses sur le métier, faudra toujours remettre l'ouvrage sur le métier. On n'arrête jamais, et quand on arrête, bon, on est repris par le courant et ça commence à mal aller. C'est un petit peu l'impression qu'on a à notre époque, c'est qu'on a laissé trop faire trop de choses. Mais effectivement, j'essaie de dialoguer avec tous les gens qui en ont envie, puis ils en tirent ce qu'ils en veulent, et puis ensuite c'est leur problème. Hein. Voilà. C'est aussi leur avenir.
Oui, le dessin comme encore outil de résistance et d'imagination. L'imagination aussi.
La narration, d'une manière générale, l'écriture.
Il nous reste encore un petit moment. Si vous voulez passer des questions dans la salle, c'est possible. On a du temps. Lors de la dernière table ronde, je me suis fait gagner par le temps. Donc là, on va essayer de prendre un petit peu plus de temps pour être... autour du feu, tous ensemble, tranquillement, et autour de François Bourgeon. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant,
même si elles vous paraissent bêtes.
Surtout.
Voilà. Non, c'est
bien tenté.
La seule chose que je peux dire, c'est que ça va prendre du temps. Je vous dis, comme la petite fille Bois Caïman m'a pris 5 ans, ça va être à peu près la même chose. Donc, faut que j'arrive au moins jusqu'à 75 ans. Voilà. j'y prends beaucoup de plaisir. Je ne me suis pas facilité la tâche. J'ai pris une période difficile à traiter. C'est un projet historique. Hein. J'ai pris une période difficile, compliquée, mais dont les résonances avec la nôtre sont intéressantes.
Pardon ? C'est votre seule activité ?
Ah oui. Ah non, 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 c'est ma seule activité. Alors, je fais quand même partie des auteurs qui ont la chance d'avoir pu vivre depuis plus de 40 ans de ce métier et en vivre très correctement. Bon, on n'est pas des joueurs de foot et tout, faut pas rêver non plus. Hein. Mais j'ai quand même cette chance, c'est-à-dire que à partir du moment où un auteur commence à vendre des livres, il a deux solutions. Soit il s'achète tout de suite une grosse voiture dont il rêve depuis qu'il est petit, et puis les ennuis vont commencer très vite. Soit, moi, ce que j'ai choisi, comme je suis très avare, très, très jaloux de ma liberté, c'est de me laisser toujours la liberté de travailler sur ce que j'ai envie de faire, quitte à en payer le prix si je me plante. Et donc l'argent que je gagne, ben, ça me sert à vivre pendant 5 ans sur un projet que personne n'accepterait de financer autrement. C'est comme ça que je vis. Voilà.
La série qui vous a lancé, c'est quoi?
C'est les passagers du vent. Hein. C'est les passagers du vent. Les passagers du vent, donc, j'ai commencé à travailler dessus en 1979 pour la revue Circus. C'était paru en journal d'abord, en même temps qu'avait paru Brunel et Collin, des petites histoires que je faisais pour un journal avec Robert Génin. C'est à ce moment-là, justement, que Glénat avait essayé de m'envoyer dédicacer et que. Un certain week-end ayant été dédicacé, c'est-à-dire n'ayant fait aucune dédicace, parce que je n'étais pas connu et tout le monde se foutait que je sois là ou pas, je suis rentré, mais par contre, je n'avais pas eu le temps de terminer la dernière planche qui devait paraître dans le journal. On m'a engueulé en me disant, depuis le temps que tu es journaliste, tu devrais savoir qu'un journal ne paraît pas avec des feuilles blanches. Et j'avais répondu à Henri Filippini, écoute, tu as raison. Effectivement, j'ai rien à dire. Un journal ne paraît pas avec des feuilles blanches. En tant qu'auteur, je devrais avoir rendu mon boulot. Je ne l'ai pas terminé. Je suis en faute. Ça ne se produira plus jamais. Je te le promets. En revanche, ton boulot, toi, éditeur, c'est de vendre mes bouquins. Alors tu te démerdes sans moi. Et voilà pourquoi je ne fais pas de dédicace. Ensuite, ensuite, faut rester cohérent. Quand on commence à ne pas en faire, faut ne plus en faire. Quoi. Voilà. Oui. Bonjour.
Oui,
il marche.
Voilà, en fait, moi je me demandais, en fait, on m'a mis les compagnons du crépuscule et les passagers du vent dans les mains quand j'étais toute petite. Et c'est ces histoires, c'est ces personnages féminins-là qui m'ont fait découvrir la femme que j'avais envie d'être et qui m'ont donné envie de me révolter contre toutes sortes de choses, comme le sexisme, ce qu'on appelle désormais le slut-shaming, et toutes sortes de choses particulièrement injustes qui me tiennent à cœur maintenant. C'est vous qui m'avez inspiré ça, et je me demandais qui vous a inspiré ça à vous. Quels sont, s'il y a des auteurs ou des lectures qui, vous ont donné envie de faire passer ces messages-là?
Alors ces messages, c'est la vie qui vous le donne, hein, qui vous donne envie de vous battre ou pas. Ensuite, on a chacun son caractère, on a sa manière de se battre ou de ne pas se battre. Et puis les autres, les rencontres, les lectures éventuellement. Voilà, c'est des choses qui sont... Moi j'ai eu une enfance relativement solitaire. J'étais dyslexique quand j'étais gosse. C'est un handicap qui était à l'époque, ça n'existait pas la dyslexie. Ça a été découvert quand j'étais en sixième déjà. C'était bien tard. Et ça donne des difficultés pour la lecture, pour l'apprentissage donc de tout ce qui est par cœur, etc. Et à l'époque, les enseignants considéraient soit que j'étais un imbécile, fallait pas trop perdre de temps avec moi, soit que j'étais intelligent, mais que je me foutais carrément de leur gueule. Je pense que j'étais entre les deux. Mais c'est donc cette manière d'être un peu isolé dans son univers qui donne un peu de solitude parfois, mais cette solitude est une arme aussi, parce que les psychologues maintenant, justement, par rapport au monde des tablettes et de l'occupation constante, se sont rendus compte que les enfants qui n'arrêtent pas d'être occupés, c'est-à-dire qui ne s'ennuient jamais, ne font pas travailler leur imaginaire ou pas suffisamment, et que ça se répercute par la suite. Donc voilà, et j'ai eu aussi une suite d'expériences de vie qui a fait que je me suis trouvé souvent en opposition par rapport aux autres, et j'ai eu la chance de... Est-ce que c'est du courage, est-ce que c'est de genre, j'en sais absolument rien, mais d'avoir envie de dire non quand les choses m'embêtaient. Je pense que c'est une bonne chose de dire non, oui. De savoir dire non, pas de dire non à tout systématiquement, bien sûr, hein, mais d'apprendre à dire non quand on n'est pas d'accord, même quand les gens vous paraissent plus intelligents que vous, même quand les gens ont des arguments qui sont plus forts que ceux qu'on a, sur les persuader d'avoir... si on croit quelque chose, il ne faut pas l'abandonner.
Merci.
Merci. Oui.
Et j'aimerais savoir pourquoi justement quel est votre rapport aux outils de création.
Alors,
justement, refuser les tablettes, ce genre de choses, à l'inverse, je travaille plus sur.
Alors là, bon, c'est aussi une question d'habitude, mais c'est aussi un goût, enfin, du papier, de la matière. Bon, je suis quand même assez, j'ai un côté assez artisan, j'étais verrier, donc j'ai fait des vitraux, j'adore la sculpture, bon, là, on le voit pas dans l'exposition, mais j'ai fait tous les lutins, le chevalier, j'ai fait plusieurs personnages en modelage ou en sculpture. Donc, j'aime bien ce côté artisan. Quand j'étais môme, j'ai appris à écrire avec une plume. Hein. À l'époque, on apprenait 3-4 alphabets, on apprenait les rondes, les bâtardes, les anglaises, etc. Donc, j'avais une pratique et un goût, bien que ça posait quand même pas mal de problèmes, l'écriture à la plume. Mais j'avais commencé à travailler avec la plume, sauf qu'à un moment, les plumes avec lesquelles je travaillais ne se sont plus fabriquées et je n'ai plus pu trouver de plumes qui me conviennent. Alors, faute de pouvoir demander à quelqu'un de me les fabriquer à la main, j'ai décidé de passer à autre chose. En même temps, les technologies actuelles ont apparu. Je me suis donc dit, je travaillais à la plume avec des pleins et des déliés, mais je peux faire la même chose au feutre, seulement il faut que je travaille en plus grand. Mais miracle, je pouvais travailler en plus grand puisque je pouvais scanner et réduire ensuite mes dessins. À ce moment-là, j'ai changé parce qu'avant, je faisais une planche entière avec toutes les bulles, tous les textes et tout. Et maintenant, je travaille case par case, ce qui est pas mal aussi parce que ça permet de recadrer, de revenir si on a des remords, etc.
Sauf quand tu es obligé de faire une exposition avec 10 cadres pour une planche. Quoi, en fait. Mais du coup, voilà, ça permet effectivement de revenir sur l'exposition à laquelle je vous invite d'aller, que je vous invite d'aller à les visiter, parce que justement, vous verrez les planches complètes, vous verrez des planches couleurs, vous verrez les crayonnés, vous verrez les recherches de vêtements, vous verrez les celluloïdes, donc et l'encre noire que l'on ne voit plus nulle part. Et vous verrez donc ces fameuses planches composées de 10 petites cases éparses autour.
Oui.
Ah, c'est où ? Ça, c'était peut-être le détail que j'ai oublié de préciser. Je croyais que tout le monde le savait. C'est à la bibliothèque, en fait, à la BMI. Et donc, il y a une navette qui part d'ici régulièrement. Toutes les demi-heures, en fait, il y a une navette qui fait le circuit des expositions. Et donc, je vous invite à aller à l'accueil, harceler les personnes pour vous amener direct à la bibliothèque. D'autres questions ? Parce qu'elle est à l'étage et il fallait monter à l'étage.
Il faudrait peut-être mettre un petit panneau ou un petit truc. Oui, il y en avait un. Oui.
On va y retourner.
Oui. Alors, pour le cycle de Sian avec Claude Lacroix, moi je me lançais dans une aventure avec une collaboration, donc avec un risque, et on voulait être sûr de savoir que ça se passe bien entre nous, parce que le fait d'être amis est une chose, le fait de bien s'entendre dans le boulot en est une autre, et parfois elles sont contradictoires. On avait fait la source et la sonde, et 6 saisons sur Ilos, ce sont les deux premiers albums, mais qui constituent une histoire en elle-même, et ça aurait pu s'arrêter à ce moment-là si on n'avait pas eu envie de continuer. Ensuite, on a eu envie de continuer, et il a fallu aller au bout de moi, ce que j'avais envie de faire jusqu'à, dans le dernier album, mais le mener par ce voyage de Sian. Mais on ne voulait pas, surtout pas, faire Voilà, une planète, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. on voulait quand même aller quelque part. Alors évidemment, ça rend le dernier album à la fois plus amusant, mais ça demande de relire tous les autres, parce que c'est pratiquement impossible de comprendre si on ne lit que le dernier, on ne comprend rien du tout, quoi. Donc voilà, c'est une série qu'il faut lire en entière. Alors les gens peuvent... s'ils n'ont pas les moyens d'acheter tous les albums, ben ils en achètent un chacun, ils s'échangent, et puis voilà.
Une dernière question.
Oui.
Est-ce que vous avez eu des collaborations avec d'autres médias, comme ou lorsque vous avez produit des droits, ou refusé avec la télé, le cinéma, peut-être le jeu vidéo ?
Alors, le jeu vidéo, il y en avait eu il y a très longtemps. Avec Infogrames. Donc le premier jeu, j'avais été au courant. Il y en a eu un autre, je l'ai découvert au cours d'une procédure. Bon, passons là-dessus. Voilà. Alors, cinéma, il n'y a rien eu. Alors, le cinéma, c'est très simple. Soit un réalisateur dont j'aime le travail vient me voir, ou même un jeune, je veux dire, mais... dont j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va en faire, et à ce moment-là peut-être il peut se passer quelque chose, sinon voilà. Une adaptation, c'est toujours systématiquement une trahison. Il faut surtout pas penser que quelqu'un va faire ce que vous avez dans la tête, va faire le film qui vous a accompagné tout au long de la création, mais au contraire c'est un lecteur qui va donner sa vision de lecteur, ce qu'il a... Bon, alors à ce moment-là, ben on préfère que le lecteur soit Stanley Kubrick. Ou... mais bon, sans avoir des exigences, d'ailleurs impossibles à réaliser,
Tu avais dit qu'on ne parlait pas des morts.
Voilà. Mais il faut quand même être séduit par le cinéma que propose la personne, quoi.
On va être obligé de libérer la salle pour continuer à parler de bande dessinée. Donc je vous invite à continuer tout ça dans la visite de l'exposition. Je remercie chaleureusement François Bourgeon du temps qu'il nous a accordé et de nous avoir permis d'exposer encore ces images et ces maquettes pour la dernière fois.
Les maquettes,
pour la dernière fois. Oui. On reviendra pour la prochaine série. Rendez-vous dans 5 ans. Merci François.
C'est moi qui vous remercie.